Chronique du dessin, adaptation littéraire. Bonjour à toutes et à tous. Série et roman graphique aujourd'hui avec comme point commun une représentation de l'opéra. Commençons avec le dernier Lucky Luke, dessiné par HD et mis en scénario par Jules. Lucky Luke est une création de Maurice. Un cow-boy sous pression va faire cette fois le focus sur l'arrivée des brasseurs allemands aux États-Unis. Alors, il y a eu 6 millions d'immigrés allemands qui sont arrivés aux États-Unis. Ils ont créé un certain nombre de villes. C'est surtout dans la ceinture nord-est des États-Unis. Et ces villes, on les appelle la ceinture allemande. Alors, l'histoire commence lorsque Lucky Luke arrive à New München et il y a une pénurie de bière parce que la ville n'est plus approvisionnée. La bière vient de Milwaukee, donc Lucky Luke est chargé d'aller permettre d'aller à Milwaukee pour qu'il y ait un réapprovisionnement des différentes villes qui profitent de cette ville de brasseurs. Alors, lorsqu'on arrive à Milwaukee avec Lucky Luke, on découvre cette ville qui est marquée par l'impérialisme allemand, avec une présence industrielle très forte, mais pas seulement, puisque cet impérialisme est aussi linguistique. Et le plus inquiétant et le plus caractéristique, et c'est justement cette scène de l'opéra, puisque Lucky Luke va être invité par le brasseur Marx à une représentation à l'opéra où on assiste, et il y a une double page qui est vraiment centrée sur cet événement, on assiste à une représentation avec une très grande image du point de vue de la scène où on a deux acteurs caricaturés assez grossièrement, les musiciens dans la fosse, le public à l'arrière, mais il y a très vite une absence de précision dans le dessin de la foule qui fait que cette salle qui peut paraître immense ne fait absolument pas sens puisque dès les quelques quatrième ou cinquième rang, on n'a plus juste que quelques traits pour évoquer le monde. Même tout l'arrière-plan est dans une masse noire et ne fait absolument pas sens. Le décor est aussi grandement simplifié, puisque autant à l'extérieur on avait vraiment un édifice qui était représenté avec précision, qu'à l'intérieur il y a une simplification de l'architecture. On a quelques vagues traits pour évoquer les portes de sortie, quelques autres pour évoquer les loges avec les dessins des balcons qui sont juste là de manière simplifiée. Il y a aussi dans la représentation des acteurs une sorte de caricature outrancière qui n'est pas très généreuse. C'est d'autant plus dommageable que sur l'ensemble de cette double page, on n'est pas à l'opéra, tout simplement, on n'y croit pas une seule seconde. Et la péripétie qu'il va y avoir dans cette double page perd franchement de son intérêt. Mais ce n'est pas seulement le dessin qui est en cause, c'est aussi la mise en couleur par justement cette simplification où on a une couleur pour plutôt chaude pour la partie de la scène qui est sous la lumière, mais par contre la fosse avec les différents instruments, on est dans une simplification, aucune nuance de couleur pour permettre de distinguer et de donner une présence à tous les musiciens. Sur la foule, eh bien là aussi, on a trois teintes et puis ça se simplifie avec une mise au noir de la plupart des personnes présentes dans la salle. C'est extrêmement dommageable quand on voit la qualité que permet aujourd'hui la mise en couleur, par exemple sur informatique, où on n'est pas obligé de simplifier de cette façon. Fred Beltrane, auteur, dessinateur, excellent coloriste, a des scènes de foule où il peut être complètement dans la nuance pour chacun des personnages, même si on est dans le lointain, et ces foules prennent une intensité tout à fait remarquable. Fred Beltrane est l'auteur notamment des Technopères et de Megalex. Reste de ce cow-boy sous pression une situation inédite, celle d'un Lucky Luke qui est nu, d'abord chez le docteur, pour faire soigner son mal de dos, et une autre, lorsqu'il, après tomber dans une cuve de bière, il met ses vêtements à sécher, et cette situation plutôt inédite est tout à fait cocasse. Un cow-boy sous pression de Jules pour la partie scénario et HD pour la partie dessin. Lucky Luke est une création de Maurice et publié par Lucky Comics. Les 48 pages de ce livre sont au prix de 12,50 € et il a été imprimé en France. Poursuivons avec Le fantôme de l'opéra de Paul et Gaëtan Brizzi, adaptation littéraire en bande dessinée du roman de Gaston Leroux. Les deux frères jumeaux, Paul et Gaëtan Brizzi, sont un peu spécialisés dans l'adaptation littéraire. Ils ont fait plusieurs titres, dont par exemple L'Enfer de Dante ou Le Don Quichotte de Cervantes, un automne à Pékin absolument réjouissant, mais aussi des textes illustrés, comme par exemple des nouvelles d'Edgar Allan Poe avec La chute de la maison Usher. Le fantôme de l'opéra est un récit fantastique, c'est vraiment la dimension de l'écriture de Gaston Leroux, où dans le récit, des événements surnaturels ont lieu à l'opéra. Un grand lustre s'effondre pendant une représentation et tue une spectatrice. Un machiniste est retrouvé pendu. La direction doit se rendre à l'évidence. Un fantôme ou un homme machiavélique nommé Eric hante le théâtre. Certains affirment avoir vu le visage déformé de cet individu qui ne semblerait pas être humain. Peu après, les directeurs de l'opéra se voient réclamer 20 000 francs par mois de la part d'un certain fantôme de l'opéra qui exige aussi que la loge numéro 5 lui soit réservée. Dans les coulisses de l'opéra, le vicomte Raoul de Chagny est épris de Christine, une jeune chanteuse lyrique. Mais il ne supporte pas de l'entendre parler avec un autre mystérieux prétendant à la voix lugubre, fantomatique. L'important de ce récit et de son adaptation, c'est cette représentation de l'opéra. Nous y sommes en plein. Et la dimension du dessin va être de réussir à représenter l'édifice, pas seulement dans ses extérieurs, et déjà la présentation, dès la page 5 de l'Opéra Garnier, montre une qualité de précision qui va permettre déjà de nous inviter à aller plus en avant dans l'opéra lui-même. Nous rentrons rapidement dans les coulisses, nous assistons à des créations de décors, nous sommes un peu plus loin dans la partie machine et nous assistons à une représentation. C'est très rapide, mais à chaque fois, les deux auteurs dessinateurs prennent le temps et la précision pour représenter ce qu'est vraiment l'opéra. Lorsque nous sommes au spectacle, nous avons le détail de l'architecture, la présence du public dans les loges, mais aussi dans la grande partie de la salle. Et il y a une attention qui est portée à ce public pour que la représentation fasse sens. Le fantôme de l'opéra va donc porter par cette représentation architecturale des lieux une très grande qualité. Et ainsi, nous sommes vraiment proches de l'intrigue, proches de la représentation. Le fantôme de l'opéra est marqué justement par cette dimension architecturale, puisque un des architectes de l'opéra Garnier va construire un édifice sous l'opéra lui-même qui va être son antre et qui va avoir une dimension assez exceptionnelle. L'image va donc rendre compte de cet opéra souterrain, de cette gigantesque partie, pour donner de l'intensité à ce récit. Il y a, pas seulement dans l'opéra, puisqu'on a d'autres scènes d'extérieur, mais la même attention qui va se faire dans les rues de Paris, dans un lieu public, une gare, et à chaque fois, on a cette même qualité architecturale. Un des points qui fait la force de cette représentation est l'utilisation du crayon gris. Très souvent, beaucoup de dessinateurs font un travail de recherche au crayon pour poser le placement des personnages, les gestuels, les éléments de décor. Tout ça est fait assez rapidement et le crayon gris est un outil très souple qui est facile à utiliser et qui permet ce travail de recherche avec beaucoup d'efficacité. Lorsque l'on garde le crayon gris comme élément constitutif de la représentation, il y a une douceur qui va rester, et notamment parce que il y a un lien très fort entre la matière du papier et le crayon gris lui-même. Lorsque vous avez un papier à grains et que vous passez votre crayon, il n'y va pas y avoir de surface uniforme et la teinte du crayon va être très animée et va permettre ainsi de donner à la surface une vie intense. Paul et Gaëtan Bridzi ont cette qualité dans l'utilisation du crayon gris qui fait qu'on va avoir non seulement cette précision dans les décors, chaque élément de relief d'un bâtiment, par exemple, va générer une lumière différente et le crayon gris va permettre toutes ces nuances de lumière dans chaque scène et c'est à la lecture réjouissant. Et puis il y a aussi la gestuelle. Cela permet d'être, et c'est la souplesse du croquis, cette recherche du geste juste, eh bien, le crayon va garder cette gestuelle aussi précise dans son aspect définitif de la mise en image. Le cahier graphique, en fin de livre, montre une étape de ces images qui est cette recherche par Paul et Gaëtan Bridzi, des gestuels des différents personnages, des expressions, des regards, la façon dont on va créer un mouvement dans le corps d'un personnage. Et on a donc cette préparation qui fait que eh bien, le geste va être juste, va être précis. Et la mise au crayon définitive, et on a des scènes absolument magnifiques. Il y en a une, par exemple, dans une des salles du fantôme de l'opéra, qui est très en profondeur, où il s'est construit un orgue avec des drapés. Il y a une précision dans la représentation qui n'est absolument pas superflue. Elle permet au contraire de donner de l'intensité à toute la scène. Vous rajoutez à cela toutes ces couleurs animées grâce à la matière du papier et le résultat est vraiment enthousiasmant. Le crayon gris va porter ainsi la dimension de l'écriture fantastique de Gaston Leroux avec toute son efficacité, autant dans la représentation des différents bâtiments, des différents lieux, des intérieurs, mais aussi des personnages et des foules. À aucun moment, les auteurs simplifient cette écriture de la foule et il y a vraiment une nécessité de faire sens. Et la gestuelle, les regards sont vraiment aussi au plus près du récit. Le crayon gris est un art difficile, mais lorsqu'il est employé avec talent, c'est un art étonnant. Le fantôme de l'opéra, d'après Gaston Leroux, écrit et dessiné par Gaëtan et Paul Brizzi. C'est publié par les éditions Futuropolis. Les 160 pages de ce récit sont au prix de 26 euros. Le livre a été imprimé en Belgique et nous finissons en musique avec, bien sûr, le fantôme de l'opéra.